Nous n'avons rien dit pendant tellement de temps que j'ai pensé repartir comme ça, sans parler. Madame Bébé me regardait de ses petits yeux bleus fatigués, mais toujours aussi perçants. Et puis elle a fini par ouvrir la bouche lentement pour déclarer « Je n'aime pas les enfants, tu sais. Oui, je sais, ça se voit. » Elle a toussé un peu et elle a repris « Ça se voit beaucoup, énormément. » Agnès de Sarthe est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son merveilleux livre « L'impossible Madame Bébé » qui paraît ces jours-ci chez Gallimard Jeunesse. Et comme chaque soir, et particulièrement le lundi soir, pour danser et commencer bien la semaine, nous allons écouter Stevie Wonder Superstition. Étiez-vous une enfant rêveuse, Agnès de Sarthe ?
Extrêmement. Extrêmement rêveuse, c'était une activité que je prenais très au sérieux. C'était, je pense, comme si c'était mon métier en tant qu'enfant, pratiquement.
Mais vous avez raison, c'est un métier d'être enfant. Vous semblez en connaître les arcanes.
C'était aussi, ça faisait aussi partie de... J'étais une enfant consciente d'être une enfant. Et de ce que ça avait de précieux. Et c'était étrange parce que je suis quelqu'un de pas du tout nostalgique. Et pourtant, je savais que ça aurait une fin et qu'il fallait que j'accumule mon trésor de sensations et d'impressions. Parce que je voyais autour de moi les adultes, je voyais qu'ils avaient complètement perdu la trace de leur passé, de leur enfance. Et je me disais, alors non, alors moi je vais le garder. Et c'était un trésor et j'en avais conscience pendant que je le vivais.
Et ça s'est terminé à quel âge ?
Ah ben, je ne sais pas. C'est une question, qu'un de mes personnages pose à sa mère. Il y a une petite fille à un moment dans un de mes livres qui demande à sa mère, mais ça s'arrête, on arrête quand d'être enfant? Et pour toute réponse, je crois que sa mère se met à pleurer. Ce qui n'est pas très, peut-être pas très digne de la part d'une mère, mais je sais pas. C'est quand même, il y a quand même un territoire qu'on quitte. On ne sait pas très bien. On y retourne, il est toujours là. C'est assez étrange parce que c'est un exil, mais dans le même temps, on y est quand même. On l'a en nous. C'est un territoire dont on est exilé, mais qui est à l'intérieur de nous, ce qui est une drôle d'impression.
Comprenez-vous ce qu'on vous dit ?
Ça dépend. Quand on m'indique un chemin, par exemple, qu'on me dit faut aller tout droit, puis à droite, puis à gauche, etc., je ne comprends rien. Quand on explique ce qu'il faut faire avec un ordinateur, je ne comprends rien. Il y a pas mal de choses que je ne comprends pas. Oui, c'est vrai, c'est une drôle de question, mais très pertinente.
Mais que comprenez-vous alors quand on vous demande quelque chose ? Vous comprenez autre chose que ce qu'on vous dit ? Vous êtes à côté du réel.
Ça dépend. Ça dépend. Si on me demande une recette de cuisine, je peux vraiment répondre. Je comprends la question et je peux répondre. Mais en fait, je rêvasse cette capacité à rêvasser que j'avais quand j'étais enfant. Je l'ai toujours gardée. J'ai toujours. Et donc c'est un peu. Ça crée des incidents dans mon écoute. C'est-à-dire que quelqu'un peut prononcer une phrase et je me suis arrêtée sur le deuxième mot de la phrase. Qui m'a fait penser à un autre mot ou à une autre situation, et je me suis complètement arrêtée d'écouter. Alors, je ne sais pas si c'est que je ne comprends pas ou que je n'écoute pas tout ce qu'on me dit, mais je sens qu'il y a une certaine déperdition. Vous l'avez remarqué. Si vous me posez cette question, c'est que vous l'avez remarqué.
Dans votre écriture, oui, je l'ai remarqué. Et j'ai remarqué aussi que vos personnages sont toujours un pied de côté par rapport à la réalité.
Oui.
Et que vos personnages dans vos romans le sont, mais aussi les personnages que vous créez dans cette littérature que l'on appelle littérature de jeunesse sont complètement immergés dans un monde fictionnel et n'ont pas tellement envie d'aller dans le monde réel.
C'est aussi un avantage que je prends, c'est-à-dire habitant dans la littérature puisque je suis un écrivain, je me permets d'habiter les deux mondes. Mais on habite tous les deux mondes. On passe une grande partie de notre temps, ne serait-ce qu'en rêvant, à habiter un monde qui est complètement immatériel. Il se trouve que j'ai tendance à prendre ce monde-là au sérieux et à l'écouter pratiquement autant que le monde dans lequel il y a la retraite, les impôts, les agents de police, la politique, qui m'intéresse et qui me passionne. Mais il y a toujours les deux plans en même temps.
Donc l'enfance est un territoire pour vous, Agnès de Sarthe.
Oui, je le vois comme ça. Je le vois comme un territoire, oui, c'est vrai.
Un territoire de langue, plus particulièrement. Et de pensée aussi.
De pensée aussi et un territoire philosophique. Un territoire où on est dans la question, dans le questionnement, et où on n'attend d'ailleurs pas forcément de réponse. J'ai le souvenir, enfant, de ne rien comprendre déjà. J'ai commencé très tôt à ne rien comprendre et à ne pas considérer que c'était un problème. Par exemple, de ne pas comprendre un mot. Il y a des personnes qui sont vexées quand elles ne comprennent pas un mot. Les enfants passent leur temps à voir des mots qui passent dans leurs oreilles, devant leurs yeux, ne pas savoir exactement ce qu'ils veulent dire, mais ils imaginent, par exemple, je sais pas, un mot comme caravansérail, c'est un mot étonnant. Bon, même, il y a certains adultes qui ne savent pas ce que c'est vraiment. Mais on dit, ah oui, caravane, il y a sérail, bon, on arrive à se retrouver. Mais quand on est enfant, on sait même pas d'où ça vient. Ça fait un drôle de bruit, ou tohu-bohu. On se dit, tiens. Et on s'arrête sur ces mots, et on se demande. Et quand je dis qu'on n'attend pas forcément de réponse, même si les enfants sont de grands questionneurs, j'ai remarqué que souvent, ils sont plus intéressés par la question, et par éventuellement la question d'après, celles qu'ils vont poser après, que par la réponse que vous leur donnez. Et pour moi, ça définit très bien le territoire de l'enfance. Alors que plus on avance vers l'âge adulte, plus on cherche des réponses et on les exige et on ferme. Et c'est comme ça, qu'on ferme les choses.
L'ignorance est-elle source de savoir ?
Pour l'écrivain, je crois. En tout cas, le genre d'écrivain que je suis, ce qui est un genre spécial, peut-être, mais c'est un bon point de départ, je trouve, de ne pas être dans une position de savoir quand on veut écrire, parce que les choses les plus intéressantes dans l'écriture, pour moi, se situent dans la recherche. Chercher où va l'histoire, chercher ce qu'on a envie de dire, chercher ce qu'il faut dire à ce moment-là. Si on veut transmettre un savoir, on arrête la fiction, on arrête la fantaisie, on fige les choses, et puis l'écrivain que je suis, en tout cas, s'ennuie. Je veux jamais savoir grand-chose.
Vous a-t-on caché beaucoup de choses durant votre enfance, Agnès de Sarthe ?
Eh bien, il faudrait interroger mes parents. Sans doute. Et puis, mais j'ai pas le sentiment d'avoir, été tenue à l'écart. On m'en a dit tellement aussi. C'est-à-dire, on m'en a caché, on m'en a révélé. J'avais pas cette phrase qui revient souvent dans l'éducation, on te dira quand tu seras grand, tu comprendras quand tu seras grand, qui est une sorte de constante, de cliché de l'enfance. On me l'a pas dit très souvent, mais il y avait des choses qui étaient très floues quand même. C'est difficile à dire après si c'était flou parce qu'on ne m'en parlait pas, parce que je ne les comprenais pas, ou parce que je n'étais pas prête à les entendre, ou parce que je n'en avais pas l'envie, ou que je préférais écouter autre chose. Donc je ne crois pas. Et puis tout, j'ai souvent trouvé qu'on donnait une importance excessive aux secrets. Les gens adorent avoir des secrets, ils adorent les révéler, dire « alors je ne devrais pas dire ça, c'est un secret, mais voilà ». Et cette espèce de pouvoir autour du secret, je vais te dire quelque chose, tu ne le répéteras surtout à personne. Vous voyez cette situation-là? Et j'ai toujours trouvé ça ridicule. Mais depuis toute petite, je me souviens que la cour d'école était saturée de secrets. Et ça ne m'a jamais intéressée. Alors peut-être que le fait que je considère que l'ignorance est un immense, là aussi, territoire et un lieu d'observation merveilleux, fait que qu'on m'ait dit les choses ou qu'on me les ait pas dites, qu'on m'ait caché les choses, ou c'était pas vraiment un problème.
Alors vous parlez de vos parents. Eh bien, je vous propose d'écouter votre père, Aldo Nahouri. Oui, votre papa. Il va parler de l'enfant à l'intérieur de chacun de nous. Archive INA du 29 juin 2017.
L'enfant qui est en vous est un immense avantage. Il faut l'entendre et vous fier à lui. C'est entendre cet enfant qu'on a traîné avec soi, qui a laissé en nous une trace. Or, l'extraordinaire majorité d'entre nous a cet enfant en lui, mais le pense comme un handicap. Alors que, justement, il existe une partie de la population qui, elle, n'est jamais devenue vraiment adulte et est restée le tout petit enfant exerçant la toute-puissance infantile. Cette petite minorité a tellement d'assurance et tellement de violence qu'elle impose son point de vue à tous les autres qui, eux, sont des êtres civilisés parce qu'ils ont cet enfant en eux, c'est-à-dire cet enfant qu'ils ont été, qu'ils ne sont plus. D'accord, mais dont il traîne le souvenir.
Alors évidemment, avoir un père pédiatre aussi connu et reconnu que Aldo Nahouri, c'est peut-être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient que d'avoir un père spécialiste de l'enfance. En tout cas, vous semblez bien être la fille de votre père.
Ben, je l'ai jamais ressenti comme ça. J'ai jamais senti ça comme une ni comme une menace, ni en fait c'est très pratique parce que dès qu'un de vos enfants a eu une angine ou un rhume, c'est très facile de décrocher son téléphone et de voilà. Donc c'est pour avoir un rendez-vous avec le docteur, c'est quand même drôlement pratique si c'est votre père. Donc il y a quand même des avantages. Et puis ce qui est amusant, c'est qu'on partage énormément de choses. J'ai hérité beaucoup de sa vision, mais on entend dans ce qu'il dit que lui, mais c'est aussi par sa pratique, par son métier, par sa réflexion, on n'est pas du tout, on ne voit pas les choses du même angle. Donc lui, on sent que pour lui, l'enfant qui serait resté et qui resterait dans la toute-puissance, il est menaçant, l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, dans ce discours que j'entends, c'est le pulsionnel, c'est le chaos, c'est pas civilisé. Et c'est vrai que les enfants sont comme ça. Il y avait un livre, mon plus grand échec littéraire, j'adore en parler, mon livre qui s'est le moins vendu du monde, qui s'appelait Le Principe de Friedel, dont personne ne se souvient. Ça n'est pas grave. Le Principe de Friedel, c'était tous les enfants sont fous. Ça commençait comme ça, le livre. Tous les enfants, sans exception, sont fous. Donc, c'est vrai, l'enfant est sauvage, pas civilisé, il veut les choses tout de suite, etc. Si on ne se débarrasse pas de ça, peut-être que ça va créer des problèmes entre nous. Moi, je vois pas les choses comme ça. Moi, je suis très attentive à tous ces mouvements. Je les trouve joyeux, je les trouve source de créativité. Et ils ne me menacent pas, et je ne les considère pas comme une menace. J'entends ce discours et j'entends sa pertinence, mais je ne vois pas du tout les choses de cette façon-là. Là où on se rejoint, c'est que l'enfant reste, et qu'est-ce qu'on fait de cet enfant qui est en nous ? Bon, là, on se rejoint, puis après, on se sépare, chacun fait sa route.
Vous êtes écrivaine, romancière, traductrice, vous abordez de nombreux genres littéraires. Avec votre petite musique, avec votre léger décalage par rapport à la réalité, et j'ai l'impression que vous préférez les fictions à la réalité. Vous faites observer dans plusieurs de vos livres, que ça soit des essais, comme ce magnifique essai il y a quelques années intitulé « Le remplaçant », ou même dans ce dernier texte « L'impossible Madame Bébé », que finalement, eh bien, la réalité, elle gagne, et que la fiction, elle est la grande perdante de notre civilisation moderne.
C'est vrai, si vous voyez par exemple cette... on a vu beaucoup ces dernières années, des bandeaux sur les livres avec marqué « d'après une histoire vraie ». Ou alors c'est un argument promotionnel pour un livre maintenant, de dire « mais ça s'est vraiment passé, c'est l'histoire de l'auteur ». Et puis tout ce mouvement très français de l'autofiction, c'est-à-dire en disant « ça vaut quelque chose puisque ça m'est arrivé ».
C'est pas votre genre l'autofiction.
Moi non, pas,
hein.
Non, pas du tout.
Vous n'avez pas l'air de beaucoup vous intéresser à vous-même, hein, Agnès de Sartre.
Ben, c'est vrai, en fait, je m'intéresse beaucoup plus au reste du monde. Ben, c'est beaucoup plus large, hein, beaucoup plus intéressant. Enfin, il se passe beaucoup plus de choses dans le reste du monde qu'en moi, quand même. Donc ce serait dommage de ne pas regarder vers l'extérieur. Et puis la fiction m'a toujours semblé être, je vais répéter ce mot, mais il est très important pour moi, un espace de liberté. Et on est si contraint. On est si contraint, ne serait-ce que par le fait qu'on est mortel. On est contraint par toutes sortes de règles. On est contraint par notre corps. On est contraint par notre genre, par notre histoire. Et la fiction, il n'y a pas...
On peut s'en échapper aussi.
Oui, mais... Dans la fiction, on peut échapper à tout. C'était quand même cette phrase de Isaac Bashevis Singer qui pour moi est immense et fondatrice, c'est dans les rêves, dans la littérature comme dans les rêves, la mort n'existe pas. C'est bien le seul lieu où ça s'applique. Et je me dis que rien que pour ça, la fiction est quand même un refuge, une expérience, et une expérience d'expansion. Qui va à l'inverse du rétrécissement qui, voilà, on se tasse, on se rabougrit, etc. Avec la fiction, c'est le contraire. On s'expand, et ça, c'est pas mal.
Encore faut-il avoir un imaginaire assez nourri pour concevoir une multiplicité de personnages, de scénarios, d'histoires qui se déploient à la fois sur le plan temporel, qui se déplacent sur le plan géographique, et vous avez une infinité de création d'univers mentaux, psychiques, sensuel et émotionnel. Déjà, alors que vous êtes encore jeune, déjà
très, très dans... jeune, oui.
Bah oui, c'est vrai, mais c'est impressionnant de voir à quel point votre imaginaire peut accoucher de mondes aussi divers et chatoyants.
Mais c'est en fait, il suffit de regarder. Il suffit de regarder, moi c'est ce que je fais, hein. Je n'invente pas grand-chose, je ne pense pas avoir une immense imagination, mais je passe énormément de temps à contempler, à observer et à écouter. Et ça c'est une habitude aussi que j'ai prise dans l'enfance, je me souviens très bien que tous mes trajets en bus se passaient avec la tête penchée vers l'arrière pour écouter les conversations des personnes derrière moi, dont je ne retenais rien, je ne retiens absolument rien de ce que je vois, de ce que j'entends. Et là, je vais encore citer un écrivain que j'adore, qui était Flannery O'Connor, qui disait « Mon cerveau est comme une moulinette, rien de ce qui en sort ressemble à ce qui est entré. » Et donc, j'observe beaucoup de choses, je regarde, et à partir de là, je fabrique une matière, qui est la matière de ces fictions, où il y a toutes sortes de personnages qui ne sont pas moi du tout, mais qui viennent du monde. Il suffit de regarder.
Être immune, c'est vivre à l'abri des chocs, des ennuis, des souffrances, c'est être hors de portée des flèches, avoir assez de bien pour vivre sans rechercher flatterie ni réussite, ne pas être obligé d'accepter les invitations et ne pas se soucier des éloges que reçoivent les autres. Être forte, satisfaite, sentir que personne ne pense à moi et que je peux me reposer. L'immunité est un état paisible et exalté, désirable, que je pourrais atteindre bien plus souvent que je ne le fais. N'être rien, n'est-ce pas l'état le plus satisfaisant au monde ? Point d'interrogation. Cette citation, vous l'avez mis en exergue de votre livre que vous avez co-signé avec Geneviève Brisac qui s'intitule « La double vie de Virginia Woolf ». Je vous propose d'écouter la voix de Virginia Woolf. Et attention, Agnès de Sarthe, nous sommes en direct à la radio. Mmh. Cette archive n'est pas traduite, donc on vous demandera tout à l'heure d'en faire la synthèse.
In the old days, of course, when English was a new language, writers could invent new words and use them. Nowadays, it's easy enough to invent new words. They spring to the lips whenever we see a new sight or feel a new sensation. But we cannot use them because the English language is old. You cannot use a brand new word in an old language because of the very obvious, yet always mysterious fact that a word is not a single and separate entity. It is part of other words. Indeed, it is not a word until it is part of a sentence. Words belong to each other. Although, of course, only a great poet knows that the word incarnadine belongs to multitudinous seas.
C'est très émouvant d'entendre la voix de Virginia Woolf. Mmh. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'elle vient de dire ?
C'est le moment de l'interro-surprise, donc.
Oui.
Bon, elle parle des mots. Elle parle du rapport entre les mots nouveaux qu'il faudrait pouvoir inventer par rapport aux sensations nouvelles qu'on ressent. Et elle dit aussi que l'anglais est une très vieille langue et que on ne peut plus inventer les mots parce que les mots ont leur histoire. Et elle dit aussi, mais c'est une chose, elle met un moment arrivé, à mon avis, là où elle veut vraiment arriver, qui est que le mot n'est rien avant d'être dans la phrase, que les mots appartiennent au monde des mots. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le réel, c'est toute cette histoire entre signifiant, signifié ou référent, etc. Et elle parle de ça parce qu'elle disait aussi qu'elle parlait des mots, des relations entre les mots et de leurs enlacements. Et c'était extrêmement important pour elle, qui était un immense poète, de pouvoir, au sein de sa page, se faire rencontrer des mots qui ne s'étaient jamais rencontrés avant. Elle était comme une agence matrimoniale pour mots, Virginia Woolf. Et c'est peut-être une sorte de définition du poète qu'on pourrait donner, l'agence matrimoniale pour les mots. Qu'il se rencontre et qu'il fabrique une nouvelle réalité qui, à partir, il y a eu la sensation, la citation qui était en exergue de notre livre à Geneviève Brisac et à moi, VW, la citation que vous avez lue, qui est bien sûr extraite de l'œuvre de Virginia Woolf, Être immune, elle va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a le monde, il y a ce que la littérature en fait, et il y a le monde que fabrique la littérature à partir de de ces rencontres insolites, fortuites, que le poète met en place et qui nous permettent de voir au-delà de ce qui nous apparaît de manière, on va dire, triviale. Donc je commente plus que je ne traduis, mais j'espère que vous me le pardonnerez.
Voilà. C'est tout pardonné. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Le Choix d'Agnès de Sarthe. Figurez-vous que c'est Frank Sinatra.
What's new? How is the world treating you? You haven't changed a bit. Lovely as ever, I must admit. What's new? How did that romance come through? We haven't met since then. Gee, but it's nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you. But seeing you is grand. And you were sweet to offer your hand. I understand. Adieu. Pardon my asking, what's new? Of course you couldn't know. I haven't changed, I still love you so. It's nice to see you again. What's new? Probably I'm boring you. But seeing you is so grand. And you were sweet to offer your hand. I understand. Adieu. Pardon my asking, what's new? Of course, you couldn't know. I haven't changed, I still love you so.
Merci pour ce choix et pourquoi ?
C'était pour enchaîner avec Virginia Woolf. J'avais deviné que vous me passeriez cette archive. Et elle dit « There are no new words, English is so old », etc. Je me dis avec le mot « new ». Et je me suis dit « Frank Sinatra, what's new ? » Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau en littérature ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les mots ? En fait, c'est juste parce que j'adore sa façon de chanter, j'adore ce thème. Et ça, c'est un exemple de comment on... Vous parliez de l'imaginaire tout à l'heure. Si on comprend les paroles, enfin c'est juste une histoire d'une rencontre. Hein. Il rencontre une femme et lui dit ben alors que qu'est-ce qui t'arrive, où t'en es. Et puis on comprend qu'en fait c'est quelqu'un qui l'a aimé, qui l'aime encore et que de la voir ça lui fait du chagrin. Et rien que ça, c'est une émotion toute simple. Hein. Et c'est la richesse de l'orchestration et de sa façon de chanter qui fabrique qui réveille des émotions enfouies, qui vous font penser à une autre histoire, etc. Et voilà comment on fabrique les histoires. Parfois c'est juste en écoutant une chanson.
Alors, What's New, ça a aussi une autre signification peut-être dans votre univers littéraire et imaginaire, Agnès de Sarthe. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau vraiment dans notre monde? Quand on relit certains de vos livres, et notamment l'avant-dernier, La chance de leur vie, eh bien c'est le thème principal, mais de livres précédents aussi. Vous inventez des personnages qui espèrent que quelque chose de nouveau va advenir, qu'un événement va leur tomber dessus, qu'un amour va les irradier, que quelque chose d'extraordinaire va les réveiller. Et puis finalement, ils ont beau, en ce qui concerne donc le texte « La chance de leur vie », ils ont beau se déplacer aux États-Unis sur un campus américain, eh bien finalement, ils vont se trimballer avec les problèmes qu'ils avaient déjà en France et rien de neuf n'arrivera.
Mais je trouve ça très... touchant qu'on soit tellement accroché à l'espoir. C'en est presque désarmant que les humains continuent d'attendre le mieux, d'attendre autre chose, d'attendre l'amour, d'attendre un regard. Et c'est ça qui fait qu'on continue d'avancer. Hein. C'est des banalités, mais en même temps... dans une époque, je trouve ça encore plus étrange maintenant, on est dans une époque de grandes prédictions. Et on est dans une époque où les Cassandres sont partout. On a l'impression qu'en fait, il n'y a qu'une seule voix. C'est Cassandre maintenant. Alors avant, Cassandre, c'était la seule, la prêtresse. Et puis tout le monde était dans le noir, dans l'inconnu, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis là, on sait à quoi s'attendre. Il va y avoir le réchauffement climatique, la fonte des glaciers, les guerres à tel endroit. Il va y avoir plus de chômage, moins de retraite. Enfin, on sait tout. On va dans le mur, on va à la catastrophe. Et il y a toutes sortes de sources maintenant qui vont toutes dans ce sens-là. Et moi, ça m'intéresse de voir que malgré tout ça, quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, une drogue qu'on fabrique dans notre cerveau, continue de faire qu'on attend la rencontre, même la rencontre toute simple. Hein, on se promène et puis on se dit, tiens, je vais peut-être voir un oiseau. Bon, bah, c'est pas grand-chose, mais quand même, il y a cet espoir qui demeure. Et je trouve ça d'autant plus poignant dans l'époque à laquelle on vit, qui s'acharne à nous désespérer.
Dans l'époque dans laquelle on vit, ben justement, de cette époque-là, vous parlez admirablement bien, à la fois dans des essais, dans des romans, dans des livres qu'on intitule « Littérature jeunesse », Agnès de Sarthe. Un de vos grands thèmes, c'est presque une obsession qui revient souvent, c'est la transmission, la transmission de ce passé, un passé douloureux. En ce qui vous concerne, puisque le père de votre mère n'est jamais revenu des camps, vous avez construit une famille qui ne s'est pas bâtie sur le secret, mais quand même, l'ombre de ce grand-père a persisté et perdure à l'intérieur de l'histoire familiale, et vous employez, vous, avec les mots que vous savez utiliser, à transmettre ce passé pour les plus jeunes d'entre nous. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Le remplaçant », qui parle donc de votre grand-père, qui n'était pas votre vrai grand-père, mais qui était entre guillemets le remplaçant de votre grand-père. Mmh. Et vous en parlez admirablement au moment même où vous savez très bien qu'il va s'éteindre et il redevient une sorte de petit enfant. Mais vous avez aussi pour mission, parce que vous êtes écrivain, de parler d'une personne bien réelle qui a illuminé notre existence et qui aujourd'hui Et là, c'est très peu connu, c'est le professeur Korczak. Mmh. Pouvez-vous nous parler de ce professeur?
Oui, avec plaisir. Janusz Korczak, qui était polonais, un juif polonais, qui a dirigé un grand nombre d'orphelinats et qui était un pédagogue très particulier, qui s'est plongé entièrement dans son étude. Qui a perdu la vie d'ailleurs, parce qu'il a été, alors qu'il était, il dirigeait, si on peut dire, il s'occupait des orphelins dans le ghetto de Varsovie, et on lui a proposé plusieurs fois de s'en échapper, et il a toujours refusé, et il est parti dans le train avec les enfants dont il s'occupait, en leur racontant des histoires, bien sûr, dont les enfants savaient que c'était des histoires. Et ce pédagogue, je le trouve très particulier parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'observation, qui a observé les enfants comme jamais ils n'ont été observés et qui les a compris comme jamais, selon moi, ils n'ont été compris. Et retourner à ses écrits, à ses observations est une source d'enchantement. Et même si cette histoire est tragique, bien sûr, c'est très très triste, mais le lire, ça donne une sorte de coup de fouet, à la fois à l'intelligence et à la capacité d'observation et à ce qu'on peut tirer de la simple observation. Donc je suis très contente que vous lui rendiez hommage, c'est quelqu'un de très 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 important pour moi.
Le territoire de l'enfance, Agnès de Sarthe, il est habité par l'imaginaire, il est habité aussi évidemment par des personnes bien vivantes. Il est surtout très difficile de parler de ce territoire. Et vous, vous savez trouver les mots pour parler comme les enfants. Certes, vous n'êtes pas la seule et vous avez des ancêtres assez considérables. Parmi ces ancêtres, il y a Marguerite Duras. Je vous propose d'écouter Marguerite Duras qui, entre autres, hein, dans les différentes activités qu'elle a eues, a fait beaucoup de radio. Mmh. Et à la radio, ce qu'elle faisait, c'était interviewer les enfants. Je vous propose de l'écouter dialoguer avec un petit garçon qui s'appelait François. Et après, on va écouter un court extrait d'un de ses films magnifiques, Les Enfants. Archive INA, 30 avril 1965. Marguerite avec François.
Dis-moi, François.
Oui.
À quoi ça sert la télévision?
Apprendre des choses.
Seulement?
Première chose, c'est apprendre des choses. Pas seulement, des fois, on comprend des choses.
C'est pas comme l'école, quand même.
Non, c'est pas comme l'école. Mais des fois, on fait l'école à la télévision.
Mais quand on ne fait pas l'école, quand ce sont des histoires qu'on vous raconte?
Des histoires, alors là, c'est pas pareil. Je crois qu'on apprend les opérations à l'école. On apprend les dictées, on apprend les dessins. On apprend la pâte à modeler et puis écrire et pas faire des tâches. Faut être bon en soin.
Et la télévision?
Alors là, c'est autre chose aussi.
Qu'est-ce qu'on apprend?
Alors là, on apprend des histoires tristes.
Toujours?
Non, pas toujours les histoires tristes.
Presque toujours?
Non, pas presque toujours. Des fois, c'est des rigolades. Il faut rire. Et des fois, il faut pleurer. Alors, quand on est triste et quand on est content, c'est pas la même chose.
J'ai compris quelque chose que j'ai du mal à dire encore. Je suis encore trop petit pour le dire convenablement. Tout d'un coup, j'avais devant moi la création de l'univers.
Dis, Ernesto, tu veux pas chercher un peu loin?
T'aurais à dire là-dessus, Ernesto?
J'aurais à dire pas beaucoup. Écoutez, ça a dû se faire en une fois. En une seule fois, la nuit. Le matin, c'était fait. Tout était en place. Toutes les forêts, les montagnes, les petits lapins, toutes les choses. Une seule nuit. Ça s'est créé tout seul. Tout était en place. Tout était exact. Sauf une chose.
Si ça manquait, ça pourrait pas se dire.
Nous venons d'entendre donc un extrait de ce film de Marguerite Duras, Les Enfants. Et un court extrait d'un des enregistrements qu'elle faisait à la radio avec des enfants. Est-ce que Marguerite Duras est non pas un modèle, mais une source d'inspiration pour vous?
Ah ben, c'est... Et comment? Elle est intervenue deux fois de manière très très importante dans ma vie, et depuis elle n'a pas cessé. Mais la première fois, c'était quand j'avais 8 ans. J'ai écrit un livre qui était en fait un pastiche, je l'avoue, hein, devant tout le monde, un pastiche de Maurice Druon en fait. J'avais lu un livre de Maurice Druon, Tisse tous les pouces verts, que j'avais tellement aimé que je m'étais dit bon, moi je vais l'écrire, je vais changer deux trois trucs, et puis je l'avais fabriqué, et quand mon père a lu ça, il a dit, il s'est écrié, putain, c'est du Marguerite Duras. Et moi je savais pas qui c'était Marguerite Duras, mais j'ai senti que c'était drôlement bien. Et j'ai senti que une vocation d'écrivain naissait. Et c'est pas rien en fait. Et alors des années plus tard, ce qui est drôle, c'est que je lui ai demandé, mais je suis revenue là-dessus, et puis je lui ai dit, mais enfin quand t'as dit c'est du Marguerite Duras, c'était parce que tu sais j'avais en fait volé des éléments que j'avais volés à Maurice Druon en fait. Il appelait Dentiste tous les pouces verts, des Monsieur Père et Madame Mère. Et je pense que c'est à cause de ça que tu pensais que ça faisait comme du Duras. Il m'a dit mais pas du tout. J'ai dit, ah ben alors pourquoi t'as dit c'est du Duras? Il me dit, mais parce que tu terminais tes phrases par forcément, point. Tu mettais un adverbe à la fin et pour moi, il n'y avait que Marguerite Duras qui faisait ça. Alors c'était étonnant. Premier événement. Deuxième événement, à l'âge de 15 ans, alors que je suis une adolescente qui ne lit pas du tout, qui n'aime pas lire et qui le clame à toutes les sauces, à tous les moments de la journée, mon père, toujours lui, m'offre le ravissement de Lolvestein. Et là, je dis, ah ben si c'est ça les livres, oui! Alors, bah là, d'accord. Mais on merde avec les autres livres, je comprends pas. Alors qu'il y a ces livres-là, ce livre-là existe et on peut écrire comme ça. Et il y avait dans sa langue, et on l'entend dès qu'elle parle, dès qu'elle écrit, une nudité de la langue, une enfance de la langue, qui, moi, je crois, m'a complètement choquée dans le bon sens. Je me suis dit, alors là, c'est possible, là, on peut aller. Donc, ça a été décisif, Marguerite Duras. Et depuis, bien sûr, je n'ai jamais cessé de la lire. Et si je perds un peu d'énergie, eh bien, j'y retourne. Voilà.
Nous avons demandé à l'auteur, metteur en scène, dramaturge, David Lescot, de nous dire ce qu'il pensait de vous, Agnès de Sarthe. Écoutez.
Ses premiers romans pour la jeunesse, en fait, qu'elle a publié avant de publier ses premiers romans pour adultes, c'était Je ne t'aime pas, Paulus. Ça devait être au début des années 90. Et j'ai adoré ça. Son langage, l'humour qu'il y avait là-dedans, Je ne t'aime pas, Paulus. Puis après, il y a eu un autre roman que j'aimais beaucoup sur les phobies d'une préadolescente. Ça s'appelait Les peurs de conception. C'était très libre, très drôle, très cruel aussi. Il y avait un humour très neuf, je trouve, dans cette langue. Et il n'y avait pas de filtre avec la personne qui écrivait. J'aimais beaucoup ça. On avait l'impression que c'était elle qui parlait. Ça m'a beaucoup inspiré, je crois. Ça m'a beaucoup nourri. Le travail du langage, le travail, le rapport avec la réalité, une sorte de face à face avec les choses, avec le monde, comme ça, très direct et très intérieur en même temps. Et puis une manière de nommer les choses extrêmement minutieuse, toujours très 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 surprenante, même quand il s'agit des choses les plus familières. Et puis je crois. L'écriture est aussi le terrain de son humour, et ça c'est un endroit où on peut se rencontrer évidemment. Bah, il y a deux choses qui m'ont énormément marqué. Il y a une anecdote qu'elle raconte. Elle dit que c'est à cause de moi qu'elle a traduit Virginia Woolf. parce que elle était dans un bus avec moi et qu'elle me racontait qu'elle venait de refuser de traduire Virginia Woolf. Et pendant, en entendant notre discussion, une dame du bus s'est levée et lui a dit « Mais c'est pas possible, vous pouvez pas refuser de traduire Virginia Woolf. » Et ça l'a fait revenir sur sa décision, apparemment. Donc on dirait une anecdote tirée d'un film de Woody Allen ou quelque chose comme ça. Tous les gens du bus, tout à coup, se mettent à se retourner contre elle en disant « Mais c'est pas possible, vous pouvez pas ne pas traduire Virginia Woolf, pas vous, quoi. » Et voilà, il y a un rapport avec Virginia Woolf, en plus, qui est très fort.
Alors, nous venons d'entendre David Lescot, qui est un orfèvre hein, dans la mise en scène de théâtre pour enfants et pour adolescents. Et vous, à l'intérieur de cette œuvre, parce qu'il y a vraiment plus d'une trentaine de textes de la littérature pour la jeunesse, j'aime pas beaucoup ce mot, parce que ça voudrait dire qu'il catégorise le regard qu'on peut avoir sur de la littérature tout court. Il n'empêche que pour pouvoir écrire des livres qui sont destinés à des enfants, il faut trouver une manière de les captiver et de leur parler et d'être à la même hauteur qu'eux, de la même manière qu'on a attendu Marguerite Duras qui était à la même hauteur que le petit François tout à l'heure. J'ai l'impression, quand je vous lis Agnès de Sarthe, que vous êtes aussi à la même hauteur que les enfants. Le dernier livre qui sort ces jours-ci, qui s'intitule « L'impossible Madame Bébé », qui est évidemment une allusion très ironique, et David Lescot a raison de souligner votre humour permanent, hein, qui irradie à l'intérieur de chacun de vos textes. C'est une allusion évidemment à l'impossible Monsieur Bébé. Madame Bébé, c'est une institutrice, et le personnage principal, et je ne dévoile rien du plaisir que les adultes et les enfants et les adolescents auront à lire ce nouveau texte de vous, mais on peut dire que l'héroïne principale s'appelle Nadejda. Comment l'avez-vous inventée?
Nadejda, je l'ai inventée. C'est toujours, les personnages sont toujours des composites chez moi, mais je pense chez plein de monde. Hein. C'est-à-dire à partir de situations, de choses vues, de choses entendues. Et c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que j'observais beaucoup, je passe beaucoup de temps à observer, mais je passe beaucoup de temps aussi à observer les enfants et à les écouter et à parler avec eux. Et donc c'est un mélange, c'est toujours des mélanges entre des choses ancrées chez moi, du passé, de mes souvenirs personnels, et qui sont sans arrêt réveillées par des constats, des observations que je fais dans le monde qui m'entoure. Et je perds jamais vraiment contact avec le monde des enfants. Je m'arrange toujours pour être entourée d'enfants. Soit en les faisant, soit en fréquentant, soit en empruntant. Mais parce que j'ai beaucoup de plaisir à être avec eux. Et si j'ai pas l'impression de les utiliser. J'ai un plaisir réel à être avec eux. Et en même temps, quand on dit à hauteur d'enfant, par exemple, je ne m'abaisse jamais. On me demande parfois si, quand j'écris pour enfants, j'utilise des mots plus faciles ou des tournures qui seront apportées, etc. Et je n'arrange jamais ma langue. Je ne la dérange jamais. C'est-à-dire que j'écris comme j'écris pour les adultes. Je ne fais pas d'effort pour que ce soit plus facile. Je crois que les enfants ont une perception de la syntaxe absolument pas pareil à celle des adultes et que ça ne les dérange pas, moins que les adultes d'ailleurs, qu'il y ait des mots qu'ils ne comprennent pas, au contraire, ça les amuse souvent. Donc c'est pas tout à fait à hauteur d'enfant, je suis quand même qui je suis, mais je crois que le fait d'avoir été moi-même un enfant qui n'aimait pas tellement lire, ah, ça m'a laissé des traces quand même. Donc l'enfant qui est en moi et qui n'aimait pas tellement lire, dès que moi, en tant qu'adulte, j'écris un truc, un moment un peu ennuyeux, il dit « arrête, passe à autre chose ». Donc voilà, l'enfant en moi m'aide.
Ben, merci beaucoup Agnès de Sarthe. On ne dira qu'une seule chose, c'est que c'est à la fois très drôle et très profond, qu'il est question de thèmes extrêmement importants. Et que ce livre s'intitule « L'impossible Madame Bébé », qu'il est illustré par Louis Thomas et qui vient de paraître chez Gallimard Jeunesse. Vous connaissez Clara Luciani?
Oui.
Eh bien écoutez, c'est nu, c'est pour vous.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante ce soir. Est-ce que c'est moi qui, vraiment moi qui chantais? Suis-je plus laide ou plus belle que sur la photo? celle dont j'ai l'air. Souvent je change.
Merci à Gilles Gaillard qui était à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert, et évidemment à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission. Et comme chaque lundi soir, vous attendez tous ce rendez-vous après le prochain journal de la rédaction. Où êtes-vous, Mishka?
Je suis pas loin de chez vous, là.
Voyez. Allez,
vous voyez là le couloir.
Faire voyager.
Vous mettez là, vous sentez, et puis c'est juste à droite. Voilà. Des femmes et du blues. Voilà, c'est clair, hein, à peu près. C'est laconique, mais.
Bah, c'est, oui, c'est comme parlant. D'habitude, énigmatique.
Non, des
et
femmes
très
et du blues,
sexy.
C'est pas énigmatique.
Ah bah si, non, mais vous êtes tellement mystérieux que j'ai hâte de vous écouter.
Merci, Laure.